Radio Prague, les informations.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Alexis Rosenzweig au micro pour le bulletin. Voici les titres. Risque d'inondation en Bohême du Nord et du Sud-Est. La première Gay Pride aura lieu à Prague en août. Et puis le président Klaus est en tournée de 2 semaines en Australie pour parler réchauffement climatique. Le niveau des rivières dans le nord et le sud-est du pays a monté suite aux pluies abondantes dans la nuit de mercredi à jeudi. Selon l'Institut hydrométéorologique tchèque, il existe des risques d'inondation à au moins 4 endroits du pays, et notamment dans les environs de Liberec en Bohême du Nord et de Plzeň en Bohême de l'Ouest. De nouvelles averses plus ou moins abondantes sont attendues au moins jusqu'à vendredi. Entre le 10 et le 14 août prochain sera organisée la Prague Pride, première gay pride jamais organisée dans la capitale tchèque. Au programme sont prévus défilés, projections de films, événements sportifs et concerts sur l'île Strelecký ostrov. L'un des invités d'honneur sera le chanteur britannique connu pour son engagement Jimmy Somerville. Les organisateurs espèrent attirer en tout 5000 personnes. Prague Pride 2011 se déroulera sous les auspices du maire de la capitale, Bohuslav Svoboda. 4 rhinocéros blancs du Nord, transportés en 2009 de République tchèque au Kenya, se sont, semble-t-il, très bien adaptés aux nouvelles conditions de vie dans la réserve appelée Hall Payeta. 3 de ces animaux sont nés dans le zoo de Dvor Králové en Bohême, unique zoo au monde à avoir réussi à faire se reproduire en captivité cette sous-espèce en voie de disparition. Ces rhinocéros seraient, selon les récentes études, bien partis pour se reproduire en Afrique, seul espoir de sauver le rhinocéros blanc du Nord. Le président de la République, Václav Klaus, s'est envolé mercredi après-midi pour une tournée de près de 2 semaines en Australie. Plusieurs conférences dans différentes villes australiennes figurent au programme de la visite du chef de l'État. Celui-ci exposera sa position controversée sur le réchauffement climatique, un de ses thèmes de prédilection. Le voyage du président tchèque, organisé par l'Institut australien des affaires publiques, ne possède pas de caractère politique. Aucune rencontre avec des représentants australiens n'étant prévue. Selon la presse locale, les députés australiens, y compris le Premier ministre Julia Gillard, entendent réserver un accueil réservé à Václav Klaus en raison de ses opinions sur le réchauffement de la planète. Le bureau du chef du gouvernement aurait d'ailleurs refusé de le recevoir. On passe au sport avec du tennis et Gaël Monfils, le français, qui est en quart de finale à Hambourg, tête de série numéro 1. Le français a dominé le tchèque Radek Štěpánek en 2 manches, 6-4, 6-4. Il affrontera son compatriote Gilles Simon pour une place dans le dernier carré du tournoi allemand. Radek Štěpánek est, rappelons-le, avec Tomáš Berdych, l'un des piliers de l'équipe tchèque de Coupe Davis, qui affrontera la Roumanie en match de barrage pour le maintien dans le groupe mondial de la Coupe Davis du 16 au 18 septembre prochain. On termine avec un mot sur la météo, importante par ces temps d'inondation. Et comme mercredi, le temps reste humide et pluvieux sur l'ensemble du territoire jeudi et vendredi. Aucune évolution notable n'est attendue pour la fin de la semaine. Les températures sont inférieures aux normales saisonnières et varient entre 15 et 20 degrés pour les maximales. Le soleil devrait refaire son apparition ce samedi. Voilà pour les infos. Pour plus d'informations, c'est sur le site de Radio Prague, vous le savez, www.radio.cz, www.radio.cz, et c'est Václav Richter qui me rejoint dans le studio pour vous présenter la suite du programme en français de Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque.
Le gouvernement tchèque a approuvé les grandes lignes de la loi sur le budget de l'État pour l'année prochaine. La société tchèque MOZR fait son entrée dans le prestigieux comité Colbert. Ce sont les thèmes dont nous allons nous entretenir dans la première partie de notre émission. La suite sera réservée à Magdalena Hrozinková qui vous présentera dans le cadre de la rubrique « Les Tchèques célèbres et moins célèbres » l'ethnologue Zbigniew Andršt qui évoquera la vie des Roms en Slovaquie. Merci de rester avec nous et bonne écoute. Le gouvernement a approuvé les grandes lignes du budget de l'État pour l'année prochaine. Ce projet est contesté cependant non seulement par l'opposition, mais aussi par le parti Affaires publiques, une des 3 formations de la coalition gouvernementale. Un déficit de 105 milliards de couronnes, quelque 4,2 milliards d'euros, tel est le projet pour 2012 approuvé mercredi par le cabinet du Premier ministre Petr Nečas. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement fixe le taux de la TVA à 2 niveaux, 20 et 14%, avant de passer en 2013 à un taux unique de 17,5%. Le chef de gouvernement et le ministre des Finances, Miroslav Kalousek, ont donc renoncé à leur intention d'augmenter en 2013 la TVA à un taux unique de 19%, projet vivement critiqué par l'opposition et le parti Affaires publiques. Malgré ce renoncement, le ministre des Affaires publiques n'a pas soutenu ce premier projet, ce qui a provoqué cette réaction du chef du gouvernement, Petr Nečas.
Il se peut que quelqu'un ne soit pas content des moyens alloués à son chapitre budgétaire et qu'il exprime son mécontentement en votant contre le projet. Néanmoins, le vote sur le projet définitif du budget de l'État sera quelque chose de bien différent. Dans ce cas, un vote négatif entraînerait sans doute des conséquences politiques.
Le projet table pour l'année prochaine sur des revenus de 985 milliards de couronnes, près de 40 milliards d'euros, et sur des dépenses de 1090 milliards de couronnes, 44 milliards d'euros. Avant le 10 août prochain, les ministres du cabinet doivent présenter au ministère des Finances une estimation détaillée des dépenses de leur secteur en 2012, documents qui seront discutés ensuite avec eux par le ministre des Finances. Ce dernier doit présenter au gouvernement avant le 30 août le projet définitif de budget avec tous les documents complémentaires, projet qui doit être approuvé définitivement par le cabinet et soumis à la Chambre des députés avant fin septembre. Comme il fallait s'y attendre, la politique budgétaire du cabinet Nečas a provoqué une forte critique de l'opposition. Le chef de la social-démocratie, Bohuslav Sobotka, souligne que cette politique aggravera la différence sociale entre les diverses couches de la population, car ses auteurs envisagent de faire payer le déficit budgétaire aux couches aux revenus moyens et bas.
Le problème du taux unique de TVA est qu'il engendre une hausse importante des prix des aliments, des médicaments, du logement et des transports en commun dans une situation où le niveau des salaires stagne. Cela veut dire que les revenus de la population n'augmentent pas et que le gouvernement envisage parallèlement d'augmenter les impôts indirects, ce qui est un facteur qui réduit la consommation des foyers et freine la croissance économique.
Selon le vice-président du Parti social-démocrate Lubomír Zaorálek, la réforme de la TVA réalisée par le gouvernement provoquera une augmentation du nombre de personnes vivant au-dessous du seuil de la pauvreté. Lubomír Zaorálek avertit le gouvernement qu'il sera contraint de verser aux démunis des allocations sociales, ce qui sollicitera encore davantage les caisses de l'État. Le comité Colbert a été créé en 1954 en France et regroupe 75 maisons de luxe de 10 secteurs d'activité différents. Louis Vuitton, Cartier, Chanel, Hermès ou Dior, les plus grandes marques françaises y sont représentées. Depuis quelques jours, une marque tchèque fait elle aussi partie du comité Colbert, la marque Moser et ses verres et cristaux de luxe. Avec Moser, trois autres marques étrangères ont pour la première fois fait leur entrée au comité Colbert. Elisabeth Ponsol des Portes est la directrice déléguée de ce comité. Elle a répondu aux questions d'Alexis Rosenzweig.
Elisabeth Ponsol des Portes, bonjour. Petite révolution très récemment pour le comité Colbert, à savoir la cooptation de quatre maisons de luxe étrangères.
Grande révolution pour le comité Colbert, parce que c'est un comité qui a vraiment été créé pour promouvoir l'art de vivre français, mais nous avons considéré que depuis 1954, date de la création de notre comité, eh bien l'environnement, notamment réglementaire, juridique, avait changé et qu'il était nécessaire aujourd'hui, pour mieux faire entendre la voix du secteur du luxe, d'avoir une représentativité élargie. Et donc, nous avons modifié nos statuts et nous avons créé une catégorie de membres européens, de façon à pouvoir, lorsque nous rencontrons les instances européennes à Bruxelles ou à Strasbourg, représenter au-delà des marques françaises.
Parmi ces nouveaux membres, le tchèque Moser, la verrerie Moser, pourquoi ce choix et quels ont été les critères de cooptation de ces nouveaux membres étrangers ?
Eh bien, pour répondre en fait à votre deuxième question, nous avons souhaité que les critères d'entrée au comité Colbert de membres européens soient strictement les mêmes que ceux qui régissent l'entrée des maisons françaises. Et donc, ce sont cinq critères qui sont la présence et la notoriété internationale, la qualité, l'excellence des produits, la créativité, donc la capacité à se renouveler, ce que nous appelons, donc quatrième critère, la poésie de l'objet, c'est-à-dire tout cet imaginaire de la marque qui est créé autour du produit, et puis l'éthique. Donc les critères de recrutement de nos membres européens sont strictement les mêmes que ceux des membres français. Et nous avons effectivement choisi Moser parce que nous considérons qu'il y a là une marque tout à fait emblématique du savoir-faire tchèque et qui assure la notoriété et le rayonnement de la République tchèque à l'étranger.
Est-ce que Moser s'est imposé comme une évidence ou il a fallu analyser de près ces critères et que la marque remplit ces critères ?
Nous avons, de toute façon, nous analysons toujours les critères, mais c'est vrai que la marque s'est imposée comme une évidence. Elle a été proposée d'ailleurs par ses deux parrains que sont Michel Bernardo de la maison Bernardo en France et Jérôme de la Vergnole de la maison Saint-Louis, qui sont d'ailleurs qui est le concurrent direct de la maison Moser. Mais comme il est notre habitude au sein du comité Colbert, le parrain doit parrainer son concurrent direct et expliquer en quoi la maison qu'il parraine remplit les critères et est tout à fait digne de rentrer au sein du comité Colbert. Donc la maison Moser remplit bien ses critères. Elle a été parrainée par deux maisons françaises et elle s'est imposée de fait comme une évidence en République tchèque.
Elisabeth Ponsol déporte avec Moser en République tchèque trois autres nouveaux membres de deux autres pays.
Oui, nous avons donc Erent pour la Hongrie, qui est cette magnifique fabrique de porcelaine, là aussi tout à fait emblématique de la culture hongroise. Et pour l'Allemagne, la maison Montblanc, qui malgré son nom tout à fait français, a son siège à Hambourg et est une marque créée en Allemagne. Et puis la maison Leica, qui a la particularité d'introduire au comité Colbert un nouveau secteur, qui est celui de la technologie.
Vous êtes toujours sur Radio Prague, émission en langue française. Début juillet, le film Tzigane, Gypsy, du réalisateur slovaque Martin Šulík, a été primé au Festival international du film de Karlovy Vary. Il raconte l'histoire d'un jeune Rome dans un village défavorisé de l'est de la Slovaquie. Dans les Tchèques célèbres et moins célèbres aujourd'hui, Magdalena Hrozinková reçoit l'ethnologue Zbigněk Andršt, qui évoquera justement la vie dans ces colonies tziganes en Slovaquie.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute de ce magazine. Quelques 250 000 Roms vivent actuellement sur le territoire tchèque et environ 400 000 en Slovaquie. Comme partout dans le monde, cette population est loin d'être homogène. La majorité écrasante des familles Roms en République tchèque viennent justement de Slovaquie. On trouve ici également des Sinti et des Roms Ola. À savoir que les Roms tchèques n'existent presque plus, 90% de la population Rome autochtone a péri dans les camps de concentration nazis. D'après l'invité de ce magazine, Zbigněk Andreš, ce manque d'expérience personnelle avec les Roms du pays est partiellement responsable d'une certaine aversion des représentants de la société majoritaire à l'égard de leurs concitoyens Roms. Zbigněk Andreš, 55 ans, compte parmi les plus grands spécialistes tchèques dans les domaines de la langue, de la culture et de la civilisation Roms. Il a étudié l'ethnologie, le romani et l'hindi à l'université Charles de Prague. Il enseigne lui-même le romani à l'université de Pardubice, donne des conférences et effectue des recherches sur la vie, la langue et les traditions des Roms. Recherches liées notamment à ses séjours dans des colonies Roms en Slovaquie orientale. Zbigněk Andreš parle et enseigne également le romani Kaderach, il explique.
Le romani calderache est intéressant parce que c'est le dialecte rom le plus répandu et aussi le plus vivant dans le monde. Il est parlé par des roms dans tous les pays européens, je crois, ainsi qu'en Ukraine et dans les grandes villes russes ou encore aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Amérique latine et même en Afrique du Sud. Le romani calderache pourrait donc servir de langue universelle de communication entre les Roms, étant donné que les autres dialectes diffèrent beaucoup et sont largement influencés par la langue du pays.
Le goût du voyage et de l'aventure, Zbigniew Andrzej l'a peut-être hérité de son père, Bohuslav Andrzej, né en 1926 à la frontière de l'Ukraine et de l'actuelle Moldavie, dans un village tchèque appelé Česká Alexandrovka et fondé par les exilés évangéliques tchèques au début du XXe siècle. Bohuslav Andrzej est revenu dans l'ancienne Tchécoslovaquie en 1945 en tant que soldat de l'armée du général Svoboda, une unité militaire tchécoslovaque formée pendant la guerre en URSS. Par ailleurs, les mémoires de Bohuslav Andrzej sont actuellement diffusées par la station Vltava de la radio tchèque. Avant de commencer à s'intéresser aux Roms, le jeune Zbigniew Andrzej partageait avec les autres Tchèques des idées stéréotypées sur ce peuple.
Já tehdy konkrétně jsem měl představu, že Cikán je ten.
Pour moi, un Rom, un gitan, c'était un ouvrier terrassier, ou bien alors quelqu'un qui traîne dans la rue et dont il faut se méfier. Je n'ai pas pensé qu'il y avait un peuple aussi attirant pour un ethnologue, et même pour un historien et un linguiste. Mais il est vrai qu'à l'époque, je m'intéressais déjà aux Indiens.
À la fin des années 70, Zbigniew Andrzej entreprend un premier périple au sud-est de l'Europe et cela le marquera pour toute la vie.
Mon premier grand voyage m'a emmené dans les Balkans et en ex-Yougoslavie. Partout, j'ai vu des Roms. D'abord en Hongrie, mais surtout en Roumanie. C'était des Roms nomades qui circulaient à bord de chariots tirés par des chevaux. J'ai vu une colonne d'une quinzaine de chariots. Les femmes et les enfants étaient assis dedans, sur la paille. Les hommes marchaient à côté. Ils étaient habillés de façon traditionnelle. Cette image-là m'a marqué. Lors de mon deuxième voyage, je me suis rendu en Bulgarie, en Macédoine, au Monténégro, en Serbie et au Kosovo. Là encore, j'ai rencontré des Roms nomades, les Roms gourbettes de Bosnie ou encore les Roms musulmans de Macédoine et j'ai pu aussi les aborder. J'ai compris que l'idée que je me faisais auparavant des Roms a été tout à fait stéréotypée, fade et superficielle.
Suite à ses voyages, Zbigniew Andrzej s'inscrit au cours de langue et de civilisation rom enseigné dans une école de langue du centre de Prague. Depuis ce temps-là, il va régulièrement à la rencontre des Roms en Roumanie, en ex-URSS et le plus souvent en Slovaquie, dans la région de Spiš. Ces dernières années, il entreprend ses voyages en compagnie de sa femme Katerina, musicologue. Et l'été dernier, leur fille Bohdanka, alors âgée d'un an, a également fait le déplacement en Slovaquie orientale. Aujourd'hui, à l'époque où les Roms sont informés grâce aux médias et à l'Internet notamment de leur passé, leur culture et leur langue, l'arrivée d'un gadjo parlant le romani dans une colonie ne surprend plus personne. Mais cela n'était pas le cas il y a 20 ans, Zbigniew Andrzej.
Sous le régime communiste, quand j'allais chez les Roms en Slovaquie, j'étais confronté à des réactions différentes. Certaines personnes m'ont tout de suite accepté, elles m'ont pris pour un Rom et se sont comportées de manière tout à fait naturelle avec moi. Mais je me souviens aussi de ce qui m'est arrivé un jour à la campagne près de Stakčín. J'ai demandé quelque chose en Roumanie à un groupe de femmes et cela les a tellement amusées qu'elles étaient tordues de rire. Pendant environ 5 minutes, je leur parlais en Roumanie et elles me répondaient en slovaque, non pas parce que ces femmes ne connaissaient pas la langue rom, mais parce qu'elles n'arrivaient pas à comprendre pourquoi je leur parlais ainsi. C'était pour elles comme un sketch à la télévision.
Comment a donc changé depuis une vingtaine, une trentaine d'années la vie dans les colonies roms en Slovaquie?
Změnily se výrazně. Ale tím způsobem, že se nezměnily celé.
Elles ont beaucoup changé, mais pas dans leur ensemble. Sous l'ancien régime, ces colonies ont souffert de pauvreté. Les gens vivaient dans des cabanes faites de n'importe quoi, de briques non cuites, de traverses par exemple. Ces cabanes se sont conservées, mais à côté, vous pouvez voir aussi des villas et des voitures de luxe appartenant à quelques-uns des habitants des colonies qui ont réussi à bien gagner leur vie, mais ils ne sont pas vraiment nombreux. Il existe donc des différences sociales énormes dans ces colonies où tous les habitants sont liés par des liens familiaux, ce qui crée évidemment des tensions. Certains Roms aisés ont des ambitions politiques. Il existe actuellement, je crois, une dizaine de maires Roms en Slovaquie, ce qui a bien sûr des côtés positifs et négatifs.
L'intégration des Roms continue de poser problème en République tchèque aussi. Dernier exemple en date, le maire de la commune de Novi Bejov, en Bohême de l'Est, a accusé les Roms de la hausse de la violence dans la région. Il a même convoqué un rendez-vous des maires d'une cinquantaine de villes problématiques du point de vue de la cohabitation des Roms avec la société majoritaire, Zbigniew Andrzej.
D'abord, je refuse de parler de la question Roms ou du problème des Roms. Ce langage implique le constat qu'il existe un problème causé par les Roms. Et c'est un problème de toute la société. Il serait faux de dire que les Roms sont les victimes, discriminés par la société majoritaire, mais on ne peut pas non plus affirmer le contraire, dire que les Roms sont les méchants, que la société majoritaire essaie en vain de cultiver, d'éduquer ou d'employer. Quant à ce cas concret de Novi Bejov, il apparaît qu'il s'agit d'une seule famille qui pose des problèmes là-bas. C'est une famille de Tziganes, je ne dis pas des Roms parce qu'ils ne parlent plus le romani entre eux, mais le hongrois. Et ils sont arrivés récemment du sud de la Slovaquie. Les autres habitants Roms vivent dans cette ville depuis plus longtemps. Et maintenant, ils sont, par un concours de circonstances, intégrés dans ce groupe d'habitants non adaptables. Ce terme m'effraie. Il évoque le vocabulaire des nazis. À Novi Bejov, c'est un problème local. Les autorités devraient agir exactement comme le stipule la loi, sans raviver la rancune.
C'était donc l'ethnologue Zbigniew Andrzej au micro de Magdalena Hrozinkova. Merci d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur www.radio.cz/fr.